أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Mes chers frères en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour compléter, incha'Allah, le tafsir de la sourate Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Et c'est là un grand honneur de la part d'Allah Azza wa Jal de nous donner la possibilité d'étudier un chapitre révélé, un chapitre, un des plus importants du Coran. Et on avait vu en introduction l'importance de lire Tabarak alladhi biyadihi al-mulk tous les soirs avant de dormir, et que cette sourate intercédera pour nous, incha'Allah. Et donc, en plus de prendre l'initiative et faire l'intention ferme de le lire régulièrement, on a pu, bi'idhnillahi azza wa jal, créer une relation un peu plus forte avec la sourate. Parce que la relation que le croyant doit nouer, doit créer avec le Coran, on le répète, on le répétera encore, incha'Allah, c'est une relation basée sur, bien sûr, la lecture, mais également la compréhension. La compréhension des versets, parce que ces versets ont été révélés pour des hommes. Les versets du Coran ont été révélés pour des êtres humains. Et ce Coran, ce n'est pas juste des versets qu'on lit, mais c'est un message qu'Allah Azza wa Jal adresse à l'ensemble de la Ummah, à chaque personne qui se sent concernée par « Ya ayyuhal ladina amanu ». Et nous sommes tous concernés par ces versets qui appellent aux gens qui ont la foi. Donc ce chapitre que le croyant doit aimer particulièrement est certainement un des chapitres du Coran qu'on lit le plus souvent. En dehors de la salat, je veux dire. Bien sûr, dans la salat, il y a le Fatiha, mais en dehors de la salat, un des chapitres qui doit être lu de façon régulière durant toute la vie par le croyant, on peut dire que certainement surat Yasin le matin, mais on insisterait sur Al-Mulk le soir, parce que les vertus de Al-Mulk lues le soir, on va dire que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc ce surat qu'on a pris l'habitude d'entendre, d'écouter verset par verset, ben, on a appris également à connaître le fond et le message délivré tout au long des versets de Tabarak alladhi, et nous complétons ce soir, Inch'Allah, le 30e verset, le dernier de Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu le verset 28 qu'on a lu tout à l'heure, dont la traduction est « Dis que vous ensemble, qu'Allah me fasse périr, ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux. » On avait rappelé, on avait en commentaire de ce verset, on avait rappelé qu'à toute époque, les croyants ont été persécutés. Il n'y a pas une époque où vraiment il n'y a eu aucune difficulté, où il y a eu une protection totale. Il y a toujours eu des épreuves. Ces difficultés, ça s'appelle des épreuves. Et à l'époque du prophète, alayhi salat wa salam, même, il y a eu des complications. Hein, ils ont porté atteinte à la vie de son oncle. Lui-même a été blessé. Et le message qu'on doit retenir, c'est que ces personnes qui ont une haine contre le message de l'islam, il y a des fois où ils aimeraient voir la destruction de ceux qui ont la foi. Il y a des fois où leur plan aboutit partiellement. Ils peuvent causer du tort. Mais il y a des fois où leur plan n'aboutit pas, et tout cela c'est bifadlillah, c'est par la décision d'Allah Azza wa Jal. Mais que leur plan aboutit et qu'ils arrivent à porter atteinte aux gens qui ont la foi, ou que leur plan n'aboutisse pas, ça ne change strictement rien sur deux choses. Premièrement, sur la religion en elle-même. En aucun cas, la lumière de l'islam n'est atténuée par le mal causé par les gens. Ça, c'est quelque chose qui est annoncé par Allah Azza wa Jal de le Coran. Ils essaient d'atténuer la lumière d'Allah par leur parole, parce qu'ils vont dire, mais Allah ne les laisse pas. La beauté de l'islam, la lumière, le rayonnement de l'islam ne sera en aucun cas atteint par le mal des hommes. Et ça, c'est annoncé dans le Coran. Et on a vu, il n'y a pas une époque où il y a eu plus d'atteinte contre l'islam qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Si on analyse le nombre de batailles, le nombre de fois où les mécréants ont essayé de porter soit atteinte à la vie du prophète sallallahu alayhi wassalam ou à des tribus alliées, ou parfois même lors de la bataille des coalisés à l'Ahzab, ils se sont réunis avec d'autres tribus arabes et avec certaines autres communautés pour encercler et en finir avec les musulmans. Et ils ont même pu convaincre une tribu qui habitait au sein de Madina, avec laquelle le prophète avait signé un pacte de non-agression. Il les avait convaincus de se révolter afin que l'ennemi soit tout autour et que l'ennemi les frappe également de l'intérieur. C'est-à-dire, c'était la pire des situations possibles. L'ennemi voulait du mal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux musulmans, de partout, de l'intérieur et de l'extérieur. Ajoutez à cela les munafiqines, les hypocrites qui étaient très actifs. Malgré tout ça, malgré tout ce qu'ils ont essayé, parfois ils arrivaient, parfois ils n'arrivaient pas, ça n'a pas diminué la lumière et le rayonnement de l'islam. Et ça, c'est la sunnah d'Allah. C'est la sunnah d'Allah jusqu'à la fin des temps. Parce que cette religion-là ne dépend pas des hommes. Cette religion n'a pas besoin de la protection des êtres humains. Il n'a pas besoin de la protection des savants ou des intellectuels ou des politiciens ou des personnes aisées. Voilà, ahad. Cette religion, elle est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Tout comme son message, son livre est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ça, c'est un premier message. Ça ne change pas. Deuxième chose qui ne change pas, ces personnes qui ont essayé de porter atteinte à la vie du Prophète sallam et à l'islam à cette époque, à l'époque du Prophète sallam et à notre époque, leur situation ne change pas. Cela ne leur apporte rien. Bien au contraire. Cela va les divertir encore plus. Cela va les préoccuper dans des choses qui les éloignent du haq, du droit chemin. Et les mois, les années vont passer. Ils vont préparer, ils vont travailler encore ces plans pour lutter contre le Prophète d'Allah et contre les croyants de toutes les époques. Et ils ne font que s'enfoncer. Ils enchaînent des années en restant ennemis d'Allah jusqu'à ce que l'ange de la mort reprenne leur âme en tant qu'ennemis d'Allah. On doit plutôt avoir de la pitié pour ces gens et demander doua de guider de hidayah pour eux. On avait expliqué dans le programme sur Ar-Rahman Ar-Rahim, sur la clémence d'Allah Azza wa Jal, que le croyant ne doit jamais détester une personne. On déteste le mal causé par la personne. Si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, on déteste la mauvaise action. Mais on ne déteste pas les êtres humains, on ne déteste pas la personne. Et après, on a vu différentes anecdotes. Pour ça, il a été, subhanallah, il a fait preuve d'une clémence, d'une générosité, en acceptant le retour des personnes qui lui avaient causé beaucoup de tort. Donc, ça nous donne une véritable vision de l'islam concernant le rapport avec l'autre. Donc, ça, c'est deux choses qui ne changent pas. Ça ne porte pas atteinte à l'islam et ça n'apporte rien à ces personnes. Bien au contraire, ça les enfonce. Par contre, il y a un point qui change. Il y a un seul élément qui va connaître une influence par rapport à ces attaques ou à ces méchancetés, entre guillemets, on pourrait dire, mais c'est une influence positive. Ça va connaître un changement positif. C'est le sort des personnes qui sont opprimées. Personnes qui subissent des insultes ou pire, ben à chaque fois qu'il subit ce genre de difficulté, il le fait pour Allah, il endure avec patience pour Allah et son grade augmente. Il a l'impression qu'on lui fait du tort, il a l'impression qu'on est en train de lui faire du mal, mais bien au contraire, ce mal lui apporte énormément de bien. Ça lui rapproche d'Allah parce qu'il est en train d'endurer une petite difficulté pour le dîn d'Allah. Bien sûr, incomparable avec ce que les sahaba avaient endurer, mais c'est une petite difficulté qu'on endure pour Allah Azza wa Jal. Hada. Ça nous fait comprendre que, quelle que soit la situation, tout est dans les mains d'Allah. Quelle que soit la situation, nous sommes gagnants. Quelle que soit la situation, on a toujours une issue favorable de notre Seigneur qui est clément et miséricordieux. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous avait parlé, s'est adressé aux musulmans une fois en disant que la situation du croyant, elle est incroyable. Lorsque le croyant est touché par une épreuve, il fait preuve de patience, c'est là un bien pour lui. Et lorsqu'Allah lui accorde un bienfait, il fait preuve de reconnaissance, il remercie Allah et il fait choukr, c'est là un bien pour lui. C'est-à-dire dans toutes les situations, positives ou négatives, moment de bonheur ou entre guillemets de difficulté ou de malheur, le mu'min s'en remet à Allah, il a la réaction du cœur qui est attendue de celui qui a la foi, il est toujours gagnant. Vous vivez votre religion de façon paisible, tout va bien, les relations sont parfaites avec tout le monde, c'est un ni'ma, oui ou non, un bienfait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Choukr, remercier Allah et faire en sorte que on soit reconnaissant pour ce bienfait, qu'on soit digne de ce bienfait et qu'on puisse garder le bienfait. C'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, imaginez notre situation où il y a des difficultés. Le mu'min est gagnant parce que dans ces difficultés, il est patient, comme on a dit tout à l'heure. Dans les deux cas de figure, on s'en remet à Allah et le mu'min, il fait son chemin vers Allah. Tandis que ceux qui gravitent autour, qui essaient de porter atteinte, ils s'enfoncent et ils perdent leur temps. Et c'est là le gros problème qu'on a vu tout au long de Tabarak al-Ladhi, le rapport de ses ennemis de l'islam avec al-waqt, avec le temps. Ils veulent des preuves. Ils veulent savoir c'est quand. Ils ne croient pas tant qu'ils ne voient pas. Ils perdent leur temps, ils s'occupent à porter atteinte à ceux qui ont la foi, oubliant que leur temps est en train de s'écouler et que le rendez-vous avec le Seigneur des mondes, même s'ils ne croyaient pas en Allah, ce rendez-vous s'approche, qu'ils en soient conscients ou non. Donc dans tous les cas de figure, qu'est-ce qui doit habiter notre cœur? La sérénité. Le musulman, il se distingue par la sérénité. Il a le cœur apaisé, il a le cœur tranquille, il n'est jamais angoissé, il ne se soucie pas de tout ce qui se passe. Il sait que tout ça, c'est dans les mains d'Allah. Mais je dois juste avoir la réaction qui est attendue par le croyant, la bonne réaction du mu'min, quelle que soit la situation, positive ou négative, facile ou difficile. Ça c'était donc un petit complément de ce qu'on avait dit la dernière fois. Maintenant, le surat Tabarak al-Ladhi va se conclure par deux versets. Un verset qui est une magnifique attestation de foi, où le prophète, où Allah Azza wa Jalla demande au prophète alayhi salatu wa salam de dire à ces personnes qui n'arrêtent pas de remettre en cause plein de choses, qui n'arrêtent pas de faire des reproches, qui se distinguent par leur mécréance bien sûr, mais par leur fausse croyance sur différentes choses, sur leur force, sur leur énergie, sur leur subsistance, que c'est eux qui gagnent, et qu'ils ne seront jamais ressuscités. Toute leur croyance erronée. En conclusion, le prophète dit à ces croyants, pardon, dit à ces personnes, dit « قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا » En conclusion, écoutez bien maintenant. Voilà c'est qui mon Seigneur. Je crois en lui. J'ai confiance en lui. Je me repose entièrement sur lui. Vous croyez ou vous ne croyez pas, voilà, ça c'est haqq. Et cette parole-là, ils l'entendent. Et ça doit normalement faire un effet sur leur cœur. Même si ça ne fait pas d'effet sur leur cœur, parce que leur cœur est bouché, le musulman le dit, ça fait un effet sur notre cœur. Le fait de dire que mon Seigneur c'est Allah, le très clément, j'ai foi en lui, je m'en remets à lui, ça booste la foi. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ. Dis, c'est lui, le tout miséricordieux. آمَنَّا بِهِ. Nous croyons en lui. C'est très important de renouveler sa foi, de dire à chaque fois, c'est Allah notre Seigneur. Nous croyons en Allah. Nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas. Il n'y a pas de signe que palpable par les cinq sens. Mais je crois en Allah avec le ghaib, iman bil ghaib, la foi en l'invisible. Et j'ai une conviction totale. J'ai plus de confiance sur mon Seigneur, j'ai plus de conviction sur Allah que sur ce que je vois. Sur la couleur de ce mur, sur la couleur de cette moquette. Peut-être que mes yeux ne voient pas, peut-être qu'il y a un décalage. Mais Allah, j'ai iman, j'ai foi en Allah, c'est plus fort que n'importe quelle croyance, n'importe quelle conviction que je peux développer avec l'expérience, c'est-à-dire avec mes cinq sens. Ça, c'est une conviction qui est inébranlable de le cœur du musulman. Et cette foi, cette croyance en Allah, elle doit être là tout le temps, de façon régulière, et on doit en faire en sorte de la travailler, de la peaufiner, de la renforcer, et faire en sorte qu'il atteigne le plus haut degré, augmenter la foi par le biais de la connaissance religieuse. Un, par le biais d'une relation directe avec le Coran. Deux, mais qui rejoint le premier point de la connaissance religieuse. On connaît notre Coran, on connaît les versets, on crée une relation, notre foi augmente. Ça augmente par l'accomplissement des bonnes actions. Ça augmente également par l'effort de rester éloigné du haram. Ça augmente également par la patience dans les épreuves, dans les difficultés. Tout ça, ça augmente la foi. Et une des plus belles portes qu'Allah nous ouvre, hein, des moyens exceptionnels qu'Allah nous accorde pour augmenter cette foi, c'est le mois béni de Ramadan qui approche. On écoutait encore un dars ce matin en anglais, très excellent programme qui était sous-titré, et le cheikh qui parle, il explique, c'est un anglais apparemment vu son accent bien sûr, et donc il expliquait que il faisait une relation avec le hadith que la foi, elle a tendance à s'effriter, à pâlir, à user un petit peu, tout comme une personne lave ses vêtements, et à force de laver et de laver et de laver le même vêtement, ça finit par perdre un peu de couleur, ça finit par s'abîmer un petit peu. Et donc, le message du hadith, c'est quoi? Renforcer cette foi. Ne pas laisser la foi s'effriter. Ne pas laisser la foi diminuer. Comment on renforce? Par les cinq moyens qu'on vient de citer. Connaissance religieuse, relation directe avec le Coran, accomplissement de bonnes actions, éloignement du haram, patience dans les difficultés, les épreuves. Et si on ouvre une parenthèse concernant la connaissance, ben la connaissance basée sur la parole d'Allah, ça rejoint le point 2 du Coran, la connaissance des ahadiths, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et étudier les qualités d'Allah azza wa jal, parce que plus on connaît, et ça on l'a dit mille et une fois, mais on le répétera parce que c'est une réalité, autant on va faire d'efforts pour connaître qui est notre Seigneur, pour connaître les qualités de notre Seigneur, cela va augmenter notre foi, cela va nous donner de la conviction de notre croyance, cela nous donnera de la concentration, de la dévotion, khushu' dans chaque acte d'adoration, cela nous donnera la force de dire non face au haram, parce que dire non au péché, ikhwani fillah, on est honnête, nous restons des hommes avec nos qualités mais beaucoup de faiblesses, dire non face au haram, face au péché, c'est quelque chose de très difficile. Il est plus difficile de dire non face à un péché que d'aller vers une bonne action. Oui ou non? Il est plus difficile de résister à un haram que de se réveiller tôt pour aller au fajr. Beaucoup de gens, ils viennent au fajr, ils font de bonnes œuvres. Mais quand ils ont un péché qui est accessible et qui est sans conséquence directe par rapport au regard des gens, dire non uniquement pour Allah, c'est extrêmement difficile. On ne va pas se leurrer ou se voiler la face. C'est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas pour rien si sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, il y aura un jeune qui a reçu des propositions d'adultère d'une femme qui est belle, jeune, c'est-à-dire de son âge, et qui est d'une grande beauté et de haute lignée. Et que c'est cette femme qui fait des avances à l'homme. Normalement, c'est le contraire, mais c'est la femme qui fait des avances et le contexte est favorable pour qu'ils aient cette relation sans qu'il n'y ait de conséquences par rapport aux relations humaines. Et que ce jeune homme dit « Inni akhafullah ». Il refuse parce qu'il a la crainte d'Allah. Il n'a pas fait une action extraordinaire. Ce n'est pas un homme qui a passé la nuit en adoration et les journées de sa vie en jeûne. Il n'a, ce qui est original et impressionnant de cette catégorie, c'est que c'est la seule où l'homme n'a pas fait une bonne action. Il s'est, entre guillemets, contenté. Il a juste, entre guillemets, juste refusé un haram. Mais refuser un haram pour lequel nous avons un penchant, c'est un mujahada. C'est un sacrifice qui est apprécié par Allah et Allah donne à ce jeune homme une place sous l'ombre de son trône. Qu'Allah nous accorde à tous une place sous l'ombre de son trône. Ce verset, c'est d'une puissance exceptionnelle, une puissance spirituelle. C'est comme une flèche spirituelle que tu envoies en face de la personne. Si elle le prend bien, alhamdoulillah, c'est motif de guider. Si le cœur est rempli de d'hypocrisie et de kufr et de shirk, ça n'a aucun effet. Mais celui qui le prononce, plus il connaît Allah, plus cette phrase, ce verset, a de l'importance, apporte quelque chose. « Qul huwa ar-Rahman » dit, c'est lui le tout miséricordieux. « Amanna bihi » nous croyons en lui. « Wa alayhi tawakkalna » et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Croire en Allah, attester qu'Allah, c'est le clément, le miséricordieux. En commentaire, les moufassirines disent, voyez, quand le prophète sallam explique aux croyants, explique aux personnes en face de lui, en conclusion, qui est mon Rabb, pour qui je me soumets, c'est pour qui je suis en train de propager, et que je suis en train de vous démontrer que vous êtes à la fausseté, c'est pour vous inviter vers lui ce Seigneur. Vous savez, c'est qui ce Seigneur? Lui, c'est le très clément. La qualité qui a été mise en avant par Allah Azza wa Jal de ce verset révélé au prophète sallam, c'est Ar-Rahman, le clément, le miséricordieux, la bonté d'Allah, l'amour qu'Allah a pour ses créatures, la clémence d'Allah. Et à chaque fois que nous lisons, nous prions, nous commençons toujours Al-Fatiha et les chapitres par Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est pas Allah le Seigneur qui détruit les ennemis, qui donne la victoire aux musulmans et qui va humilier les mécréants. Ce ne sont pas les qualités qui sont mises en avant. Ce sont les qualités de clémence, de miséricorde. Chaque fois qu'on dit Al-Fatiha, qui est obligatoire, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pareil Ar-Rahman Ar-Rahim. Les mufassirines disent que le croyant va le répéter. Il n'y a pas une qualité d'Allah qu'on répète autant que Ar-Rahman Ar-Rahim, oui ou non? C'est ce qu'on répète le plus souvent dans une journée, consciemment ou inconsciemment. à travers nos lectures. Et donc, c'est pour que le croyant réalise que sa relation avec Allah est basée sur cet amour. Que intérieurement, quand on lui parle d'Allah, quelle est la qualité qui revient immédiatement? C'est qu'Allah est bon. Allah est généreux. Allah est miséricordieux. Allah est clément. Allah est, et puis avec ses qualités, il y a, Allah est pardonneur. Allah accepte. Allah est grand. Ce sont ces qualités-là que nous devons immédiatement penser quand nous entendons le mot Allah et quand nous adorons Allah. Quand on évoque Allah, ce sont ces qualités qui doivent émerger et qui doivent habiter notre cœur. « Qul huwa ar-Rahman » et après avoir présenté son Seigneur qui est Allah, « Amanna bihi » c'est-à-dire que c'est simple de dire « Amanna bihi » mais ce sens de « Amanna bihi » c'est « j'ai foi en lui » et ce « iman » il est fort, il est solide, il est inébranlable. Il n'a pas besoin de preuves, parce que les preuves sont là dans le Coran. Les preuves sont au-dessus de votre tête. Les preuves sont à droite, à gauche, au-dessous de vos pieds. Les preuves sont votre corps, dans votre corps, le fonctionnement. Toute la création d'Allah, c'est Ayatullah. On n'a pas besoin de me dire « je veux voir Dieu » ou « je veux l'entendre » ou « qu'il révèle, qu'il envoie des anges qui descendent des cieux pour m'annoncer que c'est la vérité. » C'était là les demandes des mushrikin. Ils voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de fendre le ciel et que les anges descendent et viennent dire que nous sommes les anges d'Allah. C'était là leur conception des preuves. C'était là les bases qu'ils voulaient pour leur croyance. Mais non, quand on dit « Amanna bihi », j'ai iman en Allah, même si je ne le vois pas, je ne l'entends pas, même si je n'aurai jamais contact direct avec lui, mais dans mon cœur, il y a la foi en Allah, et je sais que c'est mon Seigneur, et qu'il me donne la vie, et qu'il me donnera un jour la mort, et qu'un jour je retourne vers lui. Cette foi, c'est ce que nous avons de plus cher. Ça, pour rien au monde, on pourrait... On doit mettre en danger ce iman, ou on peut se permettre de voir cette foi diminuer. C'est le plus beau cadeau qu'Allah nous a accordé. Avant la santé, avant la famille, avant une épouse, avant des enfants, avant même le travail, tout ça ce sont des ni'am à propos desquels nous aurons à répondre. Mais le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, wallahi l'azim, le plus grand des ni'am, c'est iman billah. Et avoir la foi en Allah, c'est être sûr qu'on est de le sirat al-mustaqim. C'est que si je reste avec cette foi, je meurs, je retourne auprès d'Allah et Allah est satisfait de moi. Et khouani fillah, nous avons la foi qu'on le garde. Et demandons protection, nous devons demander protection à Allah, que jamais notre iman diminue. Qu'Allah nous protège de dévier du droit chemin avant de mourir, ça ce serait la pire des choses. Nas'alullah as-salamata wa al-afiya, qu'Allah nous protège. C'est pour ça qu'Allah nous a donné un autre cadeau, ce verset ihdina as-sirata al-mustaqim, après avoir révélé ar-rahman ar-rahim, pour que notre relation avec Allah soit basée sur cette notion de clémence, de miséricorde. Allah nous accorde le sab'ul mathani dans le Fatiha, ar-rahman ar-rahim malik yawm alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawm al-din. J'ai perdu les pédales. Quel verset on est en train de citer? Allahu Akbar. Oui, ihdina as-sirata al-mustaqim. Pour que, et cet autre cadeau, chaque composant, chacun des sept versets de As-Sab'ul Mathani, des sept versets exceptionnels de Al-Fatiha, ce sont des cadeaux qu'Allah nous a accordés. Et chacun comporte un trésor. Et le trésor de ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est quoi ce trésor? C'est istiqama. C'est la mort avec iman. Tu le lis régulièrement, avec conviction, avec dévotion, tu es en train de demander « Oh Allah, garde la foi dans mon cœur. » Tu as attesté « Oh Allah, Iyaka na'bud, c'est toi qu'on adore. Ya Allah, Iyaka nasta'in, on a confiance en toi. On a besoin de quoi que ce soit, on s'en remet à toi. » Tout ça, ce sont des trésors, ça guide ta vie. Ça te donne le chemin, le tracé. Quand on prend sa salle avec Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Il enseigne à cet enfant, garde confiance en Allah. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. T'as besoin de quoi que ce soit, demande à Allah. T'as besoin de l'aide, oriente-toi vers Allah et vers aucun être humain. Sache que les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si Allah te protège, tu es sous la protection d'Allah. Sache que les hommes peuvent te porter, essayer de t'aider. Si tu n'as pas l'aide d'Allah, tu n'es rien, tu n'avances pas. Tout ça, ce sont des trésors de foi. Et dans « Ihdina as-sirata al-mustaqim », on demande à Allah de nous garder dans le droit chemin. « Akbar ni'ma al-mawtu ala al-iman » Le plus grand bienfait, mourir avec « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Et nous devons demander à Allah de nous donner la mort avec « iman ». La mort dans de bonnes conditions en accomplissant de bonnes actions. Et demander à Allah de nous garder istiqama, fermeté, que jamais on ne dévie du droit chemin. Pire des choses pour un croyant, c'est de se dévier du droit chemin. La pire des choses pour un croyant, c'est de ne plus être accepté par Allah. La pire des choses, c'est de décevoir Allah. Nous ne pouvons pas nous permettre de décevoir notre Seigneur. Parce que si on déçoit Allah, et si Allah prend la décision de nous éloigner de lui, ikhwani fillah, il n'y a c'est la fin pour nous. Et on pourra faire ce qu'on veut, mais si Allah n'est plus satisfait de nous, Allah veut nous écarter, ce serait la pire des choses, même si en compensation il va nous donner les biens de ce monde, mais on aura tout perdu. Qu'Allah nous protège. Donc amanna bihi, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est un mot rempli de puissance spirituelle, c'est lui le très clément. On a foi, nous croyons en lui. Wa alayhi tawakkalna. Le tawakkalna, c'est le résultat de cette force spirituelle. Tu crois en Allah, tu t'en remets à lui complètement. Si tu n'arrives pas à faire confiance en Allah totalement, c'est que tu ne crois pas suffisamment en Allah. Ceux qui ont une déficience dans at-tawakkul, dans la confiance en Allah, ils ont besoin de preuves où ils ne sont pas sûrs qu'en restant dans le droit chemin, il aura l'aide d'Allah, il aura la subsistance halal et ainsi de suite. C'est qu'il y a un manquement dans sa croyance en Allah. Il a besoin de développer iman billah, connaître Allah, lire le Coran, connaître les qualités d'Allah, et ainsi de suite, pour augmenter toutes les actions qu'on a dit, pour augmenter la foi en Allah. Et quand on a la foi en Allah, tu peux avoir confiance en Allah. Tu sais exactement que même s'il n'y a rien sous tes pieds, si Allah te dit pose ton pied là, et qu'il n'y a rien en dessous, tu sais que tu poses ton pied, tu t'en remets à Allah, et tu seras bien guidé. Et cette métaphore que j'ai utilisée, c'est ça la vie. Ou parfois les asbab, les intermédiaires sont contre nous. On a l'impression que si je prends ce chemin, ou alors si je fais tel choix de carrière ou autre chose, ou si je ne transite pas par telle mauvaise action, par tel comportement contre l'éthique de l'islam, je n'aurai pas de boulot, ou je n'aurai pas de travail, ou je n'aurai pas de réussite. Reste sur le droit chemin. Reste ferme sur ton din, et Allah guidera tes pas. Allah t'accordera plus que ce que tu ne le souhaites. Reste, garde confiance en Allah. Allah te dit où poser les pieds, comment avancer. Le salat al-mustaqim, par exemple, avait une fois fait un dessin avec un chemin, des chemins qui allaient de tous les sens. Et le chemin, ça c'est le chemin. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Ça c'est وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. Traduction approximative, c'est ça mon chemin qui est droit. فَاتَّبِعُوا, suivez-le. On le suit ce chemin, parce que c'est le chemin qu'Allah a tracé pour l'homme. Et dans ce cheminement vers Allah, les sens de l'homme seront attirés par autre chose. Les pulsions, les faiblesses qui habitent mon cœur, parce que je suis un être humain, mes faiblesses sont en général en rapport avec les pulsions, tout ce qui est sexuel, ou en rapport avec les biens de ce monde, tout ce qui est matériel. Ce sont là des faiblesses qui sont propres à l'homme, et c'est normal de les avoir. Ces pulsions vont essayer de m'attirer ailleurs que le sirat al-mustaqim. Je dois me reconcentrer à chaque fois. Et tu ne pourras pas rester sur le droit chemin sans l'aide d'Allah. C'est pour ça que tu demandes à Allah, guide-nous dans le droit chemin, que je reste sur le droit chemin. Hada wa alayhi tawakkalna. Et les mufassirins disent que plus tu connais Allah, plus facilement tu pourras faire confiance en Allah. Hada. Les Moufassins disent également, il y a une relation de istilzam, une relation de, comment on pourrait dire ça, istilzam, il y a une relation directe, on pourrait dire comme ça, entre amanna et wa alayhi tawakkalna. Quand on a iman en Allah, on doit avoir confiance en lui. Parce que quand tu as la foi, tu vas parfois aller à l'encontre de ce que la société te dit concernant ta pratique de la religion. Tu t'en remets à Allah. D'accord ? Et une personne va te dire que oui, mais écoute, je donne un exemple parmi tant d'autres. Si tu ne te rases pas la barbe correctement, tu donneras une mauvaise impression. Si tu passes un entretien d'embauche et on te voit barbu, on ne va pas te prendre, et ainsi de suite. Là, tu gardes ta barbe, ben, les filles vont dire que lui, c'est un vieux bonhomme, c'est un bakoko, il est comme ci, il est comme ça, non, tu te marieras pas. Tu suis la sunna d'Al Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens vont te dire, si tu restes auprès de tes parents, tu ne vas pas t'émanciper. Mais non, tu sais que rester auprès des parents, ça c'est la clé du paradis, les doigts du papa sont acceptés par Allah. Même si les gens vont te dire, il faut que tu quittes le cocon familial, va découvrir autre chose, va habiter à New York, va là-bas. Là, wallah, auprès de mes parents, j'ai le succès, j'ai le contentement d'Allah. Même si mes sens m'invite vers la découverte. Même si mes pulsions et mes relations amicales m'invitent vers autre chose, je sais pertinemment que ce sont là, ça c'est le tracé qu'Allah nous a donné et le prophète nous a enseigné. Je reste là-dessus. Petite anecdote, parce qu'il faut absolument qu'on complète ce soir. Mais un cher qui était, cher Al-Arif, qui était venu à Rennes il y a quelques années, l'histoire j'ai déjà raconté, il me dit qu'il habite à Riyad à la base, et il avait eu une mutation possible, d'accord, à Al-Madina, Al-Nabawiya, dans la ville sainte, je crois. Il dit que son cœur brûlait pour aller habiter à Al-Madina. Qui ne rêverait pas d'y aller? Ils ont, eux, pour eux, il n'y a pas de problème de visa et tout, ils ont une nationalité, donc ils peuvent aller où ils veulent. Mais il a eu un poste. D'accord? C'est des gens qui ont des postes, mashallah. Il y a eu un poste qui s'est libéré, une mutation possible. Mais je dis, cher, tu attends quoi? Nous, si on nous donnait un visa pour aller habiter là-bas, il est 8h26, 8h27, je suis dans l'avion. Hein. D'accord? Je vous laisse le livre, les enregistrements. Faites ce que vous voulez. Il ne connaît plus personne. La ville du prophète, qui refuserait? Il a dit que j'aurais bien accepté, mais j'ai des parents âgés. Et pour moi, rester auprès de mes parents, c'est plus important que d'aller prier 5 fois par jour dans la mosquée sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est clairvoyance de foi. Quand le prophète t'explique la valeur de tes parents, tout ça, ça te donne une vision nazariya islamiya, une vision de l'islam. La société pousse les jeunes à s'émanciper. Et on ne peut pas s'émanciper, excusez-moi, je vais être cru, sans donner un coup de pied dans les parents. Selon les lois dictées par la société. Vous trouverez beaucoup de jeunes cadres, 25, 30 ans, 35 ans, bref, qui vivent encore avec leurs parents, qui prennent leurs parents âgés chez eux. C'est contre nature, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les films, donc ça ne peut pas exister dans la vie. Parce que tout nous est dicté par les films, c'est comme ça que ça marche en général. Vous voulez voir l'évolution, ou plutôt la décadence de la société, regardez pas, mais analysez les séries. Les séries qui passent en boucle américaines, vous voyez comment est-ce que la société est en train de se dégrader. Parce qu'il y a là l'image de l'homme moderne et l'homme et l'image actualisée. Année après année, ça change, ça se dégrade, les valeurs se perdent. J'allais dire certaines choses, mais je ne peux pas le dire. Des hommes en couple, c'est tout à fait normal. Ça se banalise dans les séries pour que nos enfants ou nos jeunes qui regardent finissent par intégrer tout ça. Le moumine, il doit avoir un regard spirituel. Sans détester son prochain. Bien sûr, on ne demande pas de la wallah, mais intérieurement, tu sais où est la vérité. Notre prophète nous a donné un enseignement. Mets tes pieds, même si tu ne vois strictement rien, pose tes pieds, n'aie aucune crainte. C'est là le chemin tracé par Allah et son prophète. Et la délivrance, la vérité, on le verra où ça? Là-haut. Wa alayhi tawakkalna, fa sata'lamuna. Man huwa fi dhalalin mubin. Fasata'lamuna, le signe avant le verbe au présent indicatif, c'est pour indiquer le mustaqbal, le futur. C'était plutôt à toi que je m'adresse. Fasata'lamuna, traduction. Nous croyons en lui et sans lui que nous plaçons la confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Vous saurez bientôt à qui le prophète s'adresse. À ces personnes qui l'humilient, qui torturent ses proches, qui essaie de le faire passer pour, na'oud billah, un menteur, un imposteur, quelqu'un qui sème la zizanie, ou pire, un sorcier, na'oud billah. Il dit à ces gens, continuez, je vous ai montré la vérité, vous acceptez ou vous acceptez pas, tout est dans les mains d'Allah, mais continuez à argumenter autant que vous voulez. Fasata'lamuna, un jour, vous saurez, man huwa fi dhalalin mubin, qui est dans un égarement évident. Il traitait les musulmans d'égarés. Ça m'a dit, ce dîn a commencé gharib, wa sayaoudou ghariba, a commencé étrange. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? À la fin des temps, on pointera du doigt ceux qui ont la ilaha illallah, Muhammad al-Rahdallah, parce que c'est des gens en décalage, ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont en train de se marginaliser, ça c'est haqq. Mais un jour, on verra la vérité. Ce verset, ça fait chaud au cœur. C'est le verset du réconfort, parce que n'importe quelle personne qui te pointe du doigt, soit personnellement, soit de façon générale, la religion, on peut dire à ces gens, fa sata'lamuna, man huwa fi dhalalin mubin. Vous saurez un jour. Et ce jour-là, vous aurez plus l'usage de votre langue, vous n'aurez plus votre éloquence ou votre intelligence pour affirmer des thèses, pour écrire et pour essayer de continuer la propagande. Parce qu'en ce jour, personne ne parle si ce n'est sous l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Et les gens seront apeurés. Ils verront la situation de l'au-delà. Et ce sera Maliki Yawmiddin. Allah, c'est le maître du jour de la rétribution. C'est lui qui juge. C'est lui qui annonce qui était dans la vérité et qui était dans le faux. Et là, le mu'min, quand on l'a vu dans Sahab al-Ukhdud et d'autres versets, c'est là qu'il va voir la réalisation de la promesse d'Allah. Il va comprendre c'est quoi la protection d'Allah. Il va comprendre, nous allons comprendre, c'est quoi la Rahman, la clémence d'Allah. Une clémence sur 99. Allah l'utilise pour l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Pour tout le monde, blanc, noir, musulman, chrétien, juif, athée, bouddhiste, polythéiste, quelles que soient les religions, amis d'Allah, ennemis d'Allah, ils bénéficient tous de la clémence d'Allah. Une clémence d'Allah de ce dunya. Et c'est par ça qu'il y a les bienfaits. C'est par ça qu'il y a de l'entente. Et 99 clémences d'Allah, c'est pour uniquement ceux qui ont la ilaha illallah de leur cœur, le jour de Qiyama. En ce jour, le musulman voit la vérité. En ce jour, on se rend compte c'est quoi être sous la protection d'Allah. Et en ce jour, on voit enfin les personnes qui ont causé beaucoup de tort à l'islam. On voit qu'est-ce qu'Allah leur réserve. Ce n'est pas à nous de faire justice de ce monde. Faut pas se fatiguer, faut pas trop perdre son temps. Quand on peut répondre oralement, ou on peut écrire un courrier, on peut dire à la télé, si on a la capacité de le faire, un reportage ou passer à la télé, bref, qu'on a dit, on le fait. C'est une da'wa, on rétablit la vérité. Mais après, on s'en remet à Allah. Tout est de la main d'Allah. Quand le prophète a été trahi par les trois tribus qui habitaient Al-Madinah, Al-Munawwara, ça l'a beaucoup attristé. Mais il s'en est remis à Allah. Il sait que c'est Allah qui gère tout, du début jusqu'à la fin. Et à chaque fois, il y a eu un khair dans chacune des situations. Pareil, le croyant s'en remet à Allah totalement. C'est là-haut qu'on verra la vérité. Le dénouement, c'est là-haut. Le tribunal, c'est là-haut. Autant les gens sont injustes dans ce dunya. Vous voyez quelques caricatures sur les réseaux sociaux. Un homme qui a volé du riz, de la farine et je ne sais pas quoi pour manger, il a eu 3 mois de prison ferme. Maintenant, le contre-exemple, je ne peux pas vous dire. Parce que ce serait mettre en avant des faits qui ne doivent pas être cités dans la mosquée. D'autres personnes qui ont un rayonnement totalement différent, qui détournent des millions qu'on va laisser passer. Y a-t-il une justice dans ce dunya? Bien sûr que non, il n'y a pas. Vous n'attendez pas que je vous le dise. On le voit au quotidien. On le voit au quotidien qu'il n'y a pas d'adl, il n'y a pas de justice. La justice des hommes, elle est biaisée. C'est pour ça que Imam Adil, un dirigeant juste, il est sous l'ombre du trône d'Allah. Parce que être juste, c'est quelque chose de très difficile. Ça nécessite crainte d'Allah et piété. Il y a un esprit vraiment juste et équitable. Celui qui l'a, mashallah, il est honoré. Donc, la vraie justice, elle est là-haut, face à Ta'alamoun. Chaque fois que vous êtes affecté par une atteinte portée contre l'islam en lisant quelque chose ou autre chose, premièrement, demandez hidayah. Demandez doua pour les personnes. Quand le prophète demande des doua pour tout le monde. Et dites-vous bien que là-haut, on verra la vérité. Face à Ta'alamoun, man wa fi dhalalin mubin. On dit que les croyants, ils sont décalés comme tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit. Mais là-haut, on verra qui était dans l'égarement et qui était dans le droit chemin. Et c'est là-haut qu'on verra, quand on a dit que dans d'autres versets, « Amman yamshi sawiyan ala siratun mustaqim » Il y a des gens qui sont ressuscités dans le chaos. Et d'autres, quand ils sont ressuscités, « Allahumma ja'alna minhum » Ils continuent ce droit chemin jusqu'à l'accès au paradis. C'est là-haut qu'on voit la vérité. « Hada » Dans les derniers versets, un verset qui a pour but de rappeler que tous les bienfaits, c'est Allah qui donne. Et attention, si on est ingrat, si Allah le reprend ou Allah le détruit, qui est-ce qui vous ramène ce bienfait? On ramène l'homme, encore une fois, vers la raison, vers la réflexion. Le verset précédent qu'on vient de citer, c'était du spirituel. Le dernier verset, c'est un appel à la raison. La religion, elle est basée sur l'invisible, mais elle invite l'homme à réfléchir. Et tafakkaroun, les personnes qui réfléchissent, qui méditent, qui comprennent, yaqiloun, qui ont de l'intelligence et qui arrivent à utiliser cette intelligence pour voir la vérité. Donc, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, dit que vous ensemble, les traductions ne sont pas très bonnes, mais c'est ce qu'on a imprimé, si votre eau, l'eau qu'on boit, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, faman ya'tikum bima'in ma'in, qui donc vous apporterait de l'eau de source. ابن كثير رحمه الله dit اي ذاهبا في الارض الى اسفل. Si l'eau, à l'époque bien sûr les gens, même à notre époque, l'eau il se trouve où? Il y a des nappes phréatiques, c'est sous terre. Le robinet c'est un moyen. Encore là aussi, ça nous donne une idée de notre jugement qui est parfois biaisé. On voit ce qu'on constate, mais si on creuse, l'eau ne sort pas d'un tuyau. C'est pas Veolia qui nous amène de l'eau. Ça sort de là-dessous, sous la terre. Et qui ordonne que l'eau soit présente à cet endroit? C'est Allah notre Seigneur. D'accord? Et si ce ni'ma, c'est le plus grand bienfait de l'eau. L'homme est constitué majoritairement de liquide, d'eau, et la création d'Allah d'une manière générale. S'il y a de la vie sur la terre, c'est parce qu'il y a de l'eau. Donc quand on parle de l'eau, c'est le synonyme de la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Sécheresse, c'est synonyme de mort. Plus de récolte, plus d'eau pour les animaux, plus d'eau pour les humains, c'est fini. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Donc c'est vraiment un élément symbolique. Si cette eau-là, elle est absorbée par la terre, complètement. Comment ça se fait que l'eau est dans un puits, l'eau est sous terre et que la terre ne boit pas l'eau? Si tu prends un litre d'eau, tu verses sur de la terre, il boit, mais l'eau il reste. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas fait assez d'études scientifiques, mais on va dire que scientifiquement ils vont prouver que par rapport à ça, il y a calcification, il y a tel élément ou un niveau d'humidité qui fait que... Mais c'est l'organisation d'Allah. C'est Allah qui a fait que chimiquement, il y a la composition, la terre est composée de cette façon, et ainsi de suite, que l'eau reste. Nous constatons le résultat. Il serait bien, bien dommage, et vraiment bête, de se dire que non, c'est pas Dieu, c'est la constitution de la terre. Il y a Ari, c'est comme ça qu'Allah a organisé les choses. Tout comme il y a des scientifiques qui disent que oui, non, il n'y a pas de Dieu, ce sont des cellules qui ont fait comme ci, comme ça. Mais ça, c'est le mécanisme. Comme si quelqu'un ouvre un réveil. Il n'y a plus de réveil de nos jours, hein, on regarde l'heure sur le GSM. Vous ouvrez une pendule, vous avez déjà vu une pendule? Vrai coucou suisse, un grand truc. Vous avez plein de mécanismes qui tournent. Dis, mais il n'y a pas d'horloger. Il y a des petits trucs. C'est ça qui entraîne ça, qui fait tourner tel truc, qui fait que l'aiguille tourne. Voilà donc l'explication du monde. Ok? Mais qui a créé ça? Qui a décidé que ça existe? Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Ça, c'est le niveau de réflexion scientifique qui est limité, qui ne fait que constater un fonctionnement qu'ils vont appeler dame nature. Et la foi, si on voit Ayatullah, c'est tout ça. Ce fonctionnement, ça s'appelle la perfection de la création divine. Et au-delà de ça, il y a la foi en ce Seigneur qui a tout créé. Et quand tu vois la perfection divine, ça augmente ta foi en Allah. Alors que le raisonnement scientifique se limite à la contemplation d'un système. Il n'arrive pas à monter plus haut parce qu'il n'y a pas la ilaha illallah dans son cœur qu'Allah nous protège. Donc, si cette eau était absorbée, qui donc vous apporterait de l'eau de source? C'est un rappel. La yaqdiru ala dhalika illallah. Le seul qui peut le faire, c'est Allah. Donc, réfléchissez. Et c'est pareil, par analogie, pour n'importe quel bienfait. La santé, le temps libre, la famille. Si Allah reprend, qui ramène un bienfait? Quelqu'un, il jouit d'une santé, alhamdulillah, il a un travail, il y a plein de choses. Et du coup, il oublie Allah, il va faire n'importe quoi. Si Allah, il reprend une seule chose, la santé, tu fais quoi? Qu'Allah le protège. Si Allah reprend l'usage de tes jambes, Allah reprend tes yeux, ou Allah reprend tes facultés, tu vas où? Avec ton bac plus 12, avec ton doctorat en sciences, ou en je ne sais pas quoi. Qui te donnera ton salaire de 5-6 000 euros par mois? Il n'y a plus personne parce que tu as perdu quelque chose. Tu as oublié que ce quelque chose, ce bienfait, ça vient de Dieu, ça vient d'Allah. C'est un rappel d'une façon générale à ces personnes. Mais ce qui est magnifique avec le Coran, c'est par analogie, on peut se projeter à travers différentes situations de la vie. Oui, le message est adressé à ces polythéistes. Si leur puits, leur source d'eau se tarit, il n'y a plus d'eau, où l'eau est absorbée, qui va ramener? Mais pareil, quels que soient les bienfaits qu'Allah nous accorde, si on se montre ingrat, si les bienfaits sont repris, qui nous l'apporterait? Sachant que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. Donc c'est un rappel vers la réflexion pour que l'homme, il s'en remet à Allah et il fait preuve de reconnaissance. Avec ça, alhamdulillah, nous avons complété le tafsir de Tabarak al-Ladhi biyadihi al-mulk et nous avons vu, récapitulatif très rapide, la puissance d'Allah. Tout est dans ses mains. Ala kulli shay'in qadir, il est capable de tout. C'est lui qui est créateur des cieux et de la terre. Il nous invite à regarder le ciel, comment il est parfait. Regardez, regardez encore, analysez, il n'y a aucune faille. Contemplez la création d'Allah pour réaliser que c'est lui, le Seigneur, et lui vouer un culte unique et exceptionnel. Mise en garde, attention, Il a créé telle chose pour chasser les diables. Et avec ça, rappelez que ben, dans l'enfer, il y aura ceux qui n'ont pas cru en Allah. Donc ça fait le lien. Et explication, comment est-ce qu'ils vont tomber dans l'enfer? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Quelle sera leur situation? Et ces gens, ils vont dire que on a vu les preuves, mais on ne voulait pas croire. On ne voulait pas croire que c'est Allah qui a envoyé. Donc, attention, il y a des gens qui vont réagir de cette façon et qui auront des regrets, des remords. Ces remords ne leur seront d'aucune utilité. Il aurait fallu croire au moment où il y avait encore la possibilité de croire. Ils vont dire, si seulement l'aukunna, leur rapport avec le temps, il est faussé dans toute la tabarakalladhi, tout le suratul mulk. Quand ils sont dans l'enfer, ils disent, si seulement l'aukunna nasma', si on avait écouté, si on avait réfléchi, ça c'est le constat après l'échec, c'est trop tard. Ils ont raté, ils ont perdu le bienfait du temps, ils l'ont consacré au shirk, au kufr, et le jour de Qiyamah, ils vont dire, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما كنا, mais maintenant, ils y sont, et ils n'en sortiront plus, ne soyez pas comme ces gens qui n'ont pas utilisé les bienfaits pour avoir la religion, pour avoir, pardon, la vérité du din, et ils n'auront qu'à reconnaître leurs erreurs. Et ensuite, ceux qui craignent Allah, inna alladhina yakhshawna rabbahum, détail, description de ceux qui ont la crainte d'Allah, ce qui est une qualité intrinsèque et propre aux croyants. Et ensuite, il y a des versets qui rappellent qu'Allah a créé les cieux et la terre, qu'il a accordé tel bienfait, comme on retrouve dans beaucoup de chapitres, rappel de la création d'Allah. Mise en garde à ces personnes qui ne croient pas au prophète sallam, attention, vous croyez que votre armée vous protège, vous croyez que votre subsistance elle vous appartient, si Allah reprend, qu'est-ce que vous allez faire? Et attention, avant vous il y a des gens qui ont eu la même pensée et ils ont tous été détruits. Méditez, et c'est la richesse du Coran, on a l'histoire des peuples précédents pour qu'on comprenne qu'il y en a qui ont été perdus par al-jins, le sexe, comme le peuple de Lut alayhi salam. Les penchants sexuels sans limite. D'autres c'était l'argent, le peuple de Shu'aib alayhi salam, et ainsi de suite. D'autres c'était l'orgueil, la fierté. Ils ont tous été détruits à cause de ces manquements, qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Ça fait partie de la richesse du Coran et de cette religion qui reprend l'histoire de tous les anbiya alayhi salatu wa salam. Awalam yaraw ila at-tayri, regardez l'oiseau qui vole, ça c'est la qudrat d'Allah. À chaque fois, analysez, regardez et constatez. Devenez des hommes intelligents qui voient et que leur iman augmente parce qu'ils voient la manifestation de la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal. Mise en garde également. Là on avait déjà dit Yansurukum et Aman hadha alladhi yarzuqukum. Ça on vient de le dire. Et celui qui marche sur le sirat al-mustaqim, c'est lui qui aura remporté la victoire. Parce que celui qui est resté dans le droit chemin, il est ressuscité et il avance dans un droit chemin jusqu'à l'accès au paradis. Ensuite, rappelle encore, Allah vous accorde à sam' wa l'absar wa l'afida, l'ouïe, Allah vous permet de voir et de réfléchir. Utilisez ça dans le bon sens pour voir la vérité. Et quand on leur dit tout ça, ils disent, mata, c'est quand? Ils ne veulent pas croire, tant qu'ils n'ont pas de preuves, tant qu'ils n'ont pas d'indices temporels, mais ce n'est pas possible. Pour croire en Allah, tu n'as pas besoin de preuves de temps ou de visuel. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Tu ne veux pas croire, mais attention. Et n'oublie pas, même toi qui prêches, tu dis qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est Allah seul qui sait. Et j'ai foi en lui. Je n'ai pas de preuves, mais je crois en lui. Ça, c'est la foi du croyant. Mais eux, ils ne croient pas. Quand ils le voient, c'est trop tard. Et ensuite, il y a les versets qu'on a cités la dernière fois. Et les versets qu'on a relaté aujourd'hui, qu'Allah Rabbul Izzah, dans sa clémence et sa miséricorde, nous accepte ces majalis, nous donne la possibilité de puiser, de profiter spirituellement de ces quelques paroles, nous tous, et que notre foi augmente, notre relation avec le Coran augmente, qu'Allah soit satisfait de nous, et que la beauté des versets du Coran pénètre nos cœurs, et qu'il y ait une dépendance entre notre cœur et la parole d'Allah, que nous ayons besoin du Coran, que nous ressentions ce besoin et que nous trouvons vraiment le bonheur dans l'étude des versets. Qu'Allah nous accepte tous, qu'Allah nous pardonne nos manquements. S'il y a eu des erreurs dans le tafsir de Tabarak al-Ladhi, s'il y a eu des approches erronées qui ne rejoignent pas la vie des pieux prédécesseurs, et des fois peut-être qu'on donne des interprétations, s'il y a eu des manquements, Allah irafur rahim, qu'Allah nous pardonne, mais qu'Allah nous permette d'avancer spirituellement. Que, Inch'Allah, ce mois béni qui s'approche, sachant que vendredi prochain on ne fera pas de dars, il y aura le djalsa de la Masjid al-Madina et après le prochain vendredi, c'est le mois de Ramadan. Que ce Ramadan soit vraiment une période qui va booster notre iman, qui va nous permettre de voir notre foi augmenter, le quota de bonne action augmenter. On aura la maîtrise sur notre nafs et on pourra s'éloigner de tout ce qui est haram et on prendra l'habitude de dire non
à notre nafs. Pour que, virgule, après le ramadan, à chaque fois que mon nafs m'appelle vers le haram, vers le zina du regard, ou vers le zina, vers la musique, vers n'importe quelle chose qui est mauvaise, je sais dire non. Parce que pendant un mois, j'ai appris à dire non à mon nafs, même pour des besoins primaires, comme le fait de manger ou de boire. Je deviens un homme fort, et c'est un cadeau de la part d'Allah de nous donner ce mois qui nous permet de nous fortifier. Qu'Allah accepte chaque ibadah, et qu'Allah nous donne tawfiq de faire le maximum d'efforts, et qu'il nous ouvre les portes de son acceptation durant ce mois béni, et les portes de la fermeté après mon tawfiqi. Illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.